Et ce que je vous proposais, c'était un peu de peut-être de rappeler, mais je pense que vous connaissez peut-être beaucoup les questions de protection des données, rappeler ce qu'était la protection des données, un peu le rôle de la CNIL, avant d'aborder donc des éléments, comme je l'indiquais tout à l'heure, les éléments de doctrine de la CNIL en matière de dispositifs biométriques, puisque la biométrie est bien évidemment, la donnée biométrique est bien évidemment une donnée à caractère personnel, donc la loi informatique et liberté s'applique dans toutes ses composantes. Alors deux mots sur la protection des données personnelles telle qu'on l'entend dans le modèle européen de la protection des données. Donc en Europe, c'est un droit fondamental qui est inscrit donc dans la Charte européenne des droits fondamentaux. C'est le principe d'une régulation par la loi, hein, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Alors cette loi, elle instaure un certain nombre de droits permettant à l'individu de maîtriser ses données. C'est notamment le droit d'être informé des conditions d'utilisation de ses données, le droit d'avoir accès à ces données, de les faire rectifier, de les faire supprimer, voire même dans un certain nombre de conditions, sous un certain nombre de conditions, de consentir à l'utilisation de ces données. On y reviendra parce qu'en matière de biométrie, c'est un élément important. Deuxième caractéristique, c'est le fait que la loi instaure des règles de bon usage des données. Nous, à la CNIL, on parle souvent, et notamment l'article 1er de la loi informatique et liberté le rappelle, le fait que l'informatique doit être au service de chaque citoyen, doit pas porter atteinte aux droits et libertés individuelles, et donc doit favoriser le développement humain, et ne doit pas porter atteinte fondamentalement à l'identité humaine. Et ça, c'est une disposition qui, je crois, est vraiment essentielle dans la loi informatique et liberté. Et au-delà de ça, la loi instaure un certain nombre de règles à respecter lors de la collecte, l'utilisation, le stockage des données. On y reviendra parce que cette grille d'analyse des principes clés de protection des données, on l'applique bien évidemment aux dispositifs biométriques. Troisième élément, c'est le fait qu'il y ait une autorité de contrôle indépendante, donc indépendante de tout pouvoir politique, économique, etc. Donc on verra comment à la CNIL ce principe est respecté. Et puis le fait qu'il existe un mécanisme de sanction en cas de non-respect des règles, qui peut être un mécanisme de sanction pénale, donc c'est le cas en France. Ça peut être aussi, de façon complémentaire, un mécanisme de sanction administrative. Et la CNIL dispose d'un pouvoir de sanction, notamment financière, vis-à-vis notamment des responsables de fichiers, d'applications, etc. Alors cette situation, donc ce modèle européen, il existe également dans un certain nombre de pays hors Union européenne, notamment au Canada, en Australie, etc. En revanche, dans certains pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc., il n'existe pas de loi de protection des données. Alors, aux États-Unis, il existe certaines lois sectorielles au niveau fédéral. Dans le domaine de la santé, c'est la loi HIPAA. Dans le domaine du crédit, c'est le Fair Credit Act. Également pour protéger les mineurs sur Internet. Il existe également dans certains États, notamment en Californie, des lois de protection des données, mais il n'existe pas de loi fédérale ni, a fortiori, donc, de CNIL. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la FTC, donc la Federal Trade Commission, qui joue en quelque sorte le rôle d'autorité de protection des données et qui, par exemple, très concrètement, participe à la Conférence internationale des autorités de protection des données. Mais elle n'a pas du tout, je dirais, les mêmes pouvoirs de contrôle et de sanction donc, que les CNIL, si je puis dire, européennes. Et puis, bien sûr, en Chine, en Inde... C'est un peu le no man's land. Ce qui fait que, pour essayer de régler la situation des flux transfrontières de données, la mondialisation de l'information, des flux d'information, eh bien, il y a un accord, une espèce d'accord qui a été conclu entre les États-Unis et la Commission européenne pour, je dirais, permettre aux entreprises qui échangent des données avec l'Europe, donc d'être, entre guillemets, en conformité avec les règles de protection des données. C'est ce qu'on appelle le safe harbor. Alors, en Europe, donc rapidement les textes, c'est une directive européenne qui date de 1995, qui est actuellement en cours de révision et qui va se traduire par un règlement européen, donc qui sera d'application directe. Donc, qui normalement ne devrait pas nécessiter donc d'adaptation, de transposition en droit interne. Mais en pratique, il y aura quand même certaines dispositions qui seront introduites dans le droit national. Donc, ce règlement européen, il ne modifie pas fondamentalement les principes clés de protection des données qu'on verra tout à l'heure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il renforce les droits des personnes, donc ce qu'on appelle le droit à l'oubli va être renforcé, le droit à la portabilité des informations. Les traitements à risque, et notamment les traitements biométriques, resteront soumis à un contrôle préalable, comme c'est le cas actuellement, mais on y reviendra. Et puis, il y a un principe d'une plus grande responsabilisation des entreprises, des administrations, avec en contrepartie un allègement des formalités déclaratives. Alors, la loi française, c'est donc cette... la fameuse loi de 78, qui est une loi ancienne, mais qui, vaille que vaille, est toujours, active, vivante, et puis n'est pas, à mon sens, dépassée par la technique, même s'il faudrait sans doute la faire évoluer. Elle a déjà été modifiée en 2004 pour tenir compte de la directive de 95. Et là, il est question, à nouveau, d'un projet de loi numérique qui pourrait comporter des modifications de la loi. Et enfin, dernier point, donc la CNIL, Autorité administrative indépendante. Donc là, je vous donne quelques éléments d'information. L'indépendance, elle vient essentiellement du mode de désignation de ses membres, puisqu'ils émanent respectivement du Parlement, sénateurs, députés, qui sont désignés par les commissions des lois de ces assemblées. Il y a des hauts magistrats, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de cassation, des personnalités qualifiées, désignées notamment en raison de leurs compétences en informatique et dans le domaine des libertés individuelles, conseillers économiques et sociaux également. Donc ces 17 membres sont élus ou nommés par leurs assemblées respectives, et puis ils élisent en leur sein donc le président de la commission. Donc c'est pas, le président n'est pas nommé par le gouvernement, ce qui est un élément fort d'indépendance aussi. Donc la présidente actuelle est Isabelle Falco-Pirotin, donc qui est conseillère d'État. Les services, donc vous voyez 180 personnes, c'est à peu près mixte, c'est-à-dire à la fois des juristes et puis de plus en plus d'ingénieurs en informatique, et aussi on cherche de plus en plus à recruter des profils à la fois geeks, économistes, sciences humaines, sciences sociales, donc qui a un peu un parcours, diversifié par rapport à ce que la CNIL a pu connaître il y a bien des années. Triple mission, donc il y a le cœur de mission de la CNIL qui est une mission de contrôle, donc qui s'effectue à la fois par ce qu'on peut appeler le contrôle a priori, donc par le biais des déclarations. Mais il faut savoir que les déclarations, le principe des déclarations a déjà été fortement allégé ces dernières années avec des mesures d'exonération, de simplification. Mais comme vous le voyez, on a quand même un fort flux de déclarations. Quand je parle de déclarations, c'est aussi des demandes d'autorisation et notamment dans le domaine de la biométrie. Donc, en croissance exponentielle. C'est également les contrôles sur place et les contrôles en ligne qu'on peut déclencher, à la fois sur la base d'un plan d'action qui est décidé de façon annuelle. Donc il y a eu des plans d'action certaines années qui étaient axés sur les dispositifs biométriques, notamment pour vérifier l'application de notre doctrine, donc qui a donné lieu à certains avertissements, etc., mises en demeure, parce qu'on a la possibilité soit d'adresser des avertissements, soit d'adresser des mises en demeure qui sont préalables à des prononcés de sanctions qui peuvent être, comme je l'indiquais, des sanctions financières, donc qui peuvent aller jusqu'à 150 000 euros et 300 000 euros en cas de réitération de l'infraction. Et puis des sanctions administratives, c'est-à-dire qu'on peut demander l'interruption d'un dispositif biométrique, par exemple parce qu'il n'a pas été autorisé, etc., ou parce qu'il est contraire à la doctrine de la CNIL. On a pu le faire dans le domaine de la biométrie, notamment pour un hôtel. Voilà, ça c'est l'aspect contrôle, l'aspect sanction, et puis il y a un aspect qui se développe beaucoup de plus en plus, c'est l'aspect information, conseil, concertation, accompagnement dans une démarche de conformité. Donc on a à la fois développé donc cette démarche de concertation auprès des fédérations professionnelles. Et puis également auprès des milieux de la recherche. Donc on a un certain nombre de partenariats, que ce soit, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'INRIA, avec l'Institut Télécom, avec la Conférence des présidents d'université, pour à la fois développer des actions de sensibilisation et puis mener en commun des projets de recherche. Et notamment avec l'INRIA, on a développé une recherche en commun qui s'appelle Mobilitix, dont vous pourrez voir les résultats sur notre site internet, et qui consiste à essayer de voir quelles sont les données accédées et transmises des smartphones vers des acteurs tiers, que ce soit les plateformes, que ce soit les acteurs tiers, notamment dans le domaine de la publicité. Donc Mobilitix a été, je dirais, un fort axe de collaboration avec l'INRIA. Et notamment aussi dans le domaine de l'anonymisation et de la sécurité. Donc information, conseils aussi, on diffuse beaucoup de guides pratiques, de fiches pratiques sur notre site. Donc vous en avez là quelques exemples que je vous ai donnés. Et puis des tutoriels vidéo. Et on développe aussi beaucoup un axe éducation au numérique pour essayer à la fois de sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, donc au bon réflexe à avoir sur le web, au respect de la vie privée sur le web. Donc il y a un certain nombre de tutoriels qui ont été élaborés. Et puis on a monté un collectif avec un certain nombre d'acteurs intéressés pour développer des actions en commun. Et on va, c'est une aparté, mais on va lancer prochainement la deuxième édition d'un concours qui s'adresse aux étudiants. Je n'en parle parce que je fais ma pub, mais ça, aux étudiants et élèves de grandes écoles et autres écoles, qui a pour objet de les inciter à nous présenter des projets pédagogiques à l'intention des plus jeunes, donc 6-10 ans, 10-15 ans, et sachant que les lauréats de ce prix donc, peuvent se verront octroyer un prix de 10 000 euros. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Donc on a déjà fait une première édition, les trophées EducNUM, l'année dernière. Et donc on renouvelle l'opération cette année. Donc toutes les informations seront disponibles prochainement sur notre site et sur le site EducNUM. Voilà, ça c'est un bref rappel donc, de nos missions. Alors une des questions, je dirais, clés qui se posent aujourd'hui, c'est de savoir si le mode de régulation tel que je vous l'ai décrit est adapté donc, aux nouveaux défis qu'on rencontre aujourd'hui et demain, qui sont le fait qu'on est face à un monde de capteurs, donc de collecte de données à la fois structurées et non structurées, au développement du big data, je ne vais pas en reparler là, mais à la constitution d'énormes gisements de données avec des possibilités d'exploitation à différentes fins. On est face aussi à des problématiques d'hommes augmentés. J'évoquais tout à l'heure avec vous le fait que de plus en plus, il n'y a pas simplement le développement des objets connectés, on voit aussi de plus en plus émerger le fait que de plus en plus des initiatives voient le jour. C'était déjà le cas en Espagne, au Mexique il y a quelques années, mais encore tout dernièrement on a reçu donc une demande d'intervention pour participer dans le cadre de Futur en scène, c'est une série d'événements sur le numérique qui a lieu à Paris dans différents lieux donc au mois de juin. Et bien tout simplement donc de participer à une opération Implant Party qui va consister doté des volontaires donc de puces RFID, c'est-à-dire ceux qui le souhaiteront donc pourront se voir implanter des puces RFID. Et nous, de façon tout à fait innocente, donc on nous demande si on veut participer au débat parce que les concepteurs de ce projet imaginent qu'il y a quand même quelques questions éthiques qui se posent. Donc je trouve que c'est assez symptomatique de la façon dont je dirais ce type de problématique arrive, on en parlait tout à l'heure, c'est de façon tout à fait insidieuse, normale, comme si il était normal de se faire implanter une puce RFID, sans que les questions éthiques n'aient été véritablement abordées avant, et sans est-ce qu'il est admissible ou non d'avoir ce genre de pratique aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs. Voilà. C'est juste un exemple, mais qui me paraît tout à fait topique. Et le deuxième élément, enfin deuxième défi, c'est aussi les modèles économiques du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on est face, comme vous le savez, à des acteurs de l'Internet qui considèrent que la donnée, c'est, on le répète, mais c'est vrai que la donnée est vraiment au cœur des modèles d'affaires de l'économie numérique aujourd'hui. Le principe de gratuité est contrebalancé par un principe donc de commercialisation des données personnelles qui, à l'évidence, pose problème parce qu'on considère la donnée personnelle comme un bien de consommation, comme un autre. Or, ça n'a jamais été le cas dans le modèle européen. Nous, on a toujours considéré qu'il s'agissait d'un droit fondamental, qu'on avait une maîtrise de ces données. On ne parle pas de droit de propriété, on parle de maîtrise de ces données. Et donc ces modèles économiques du numérique, assurément, je dirais, sont à contre-courant des modèles traditionnels de protection des données. La globalisation, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est le développement des flux transfrontières de données. Donc on ne peut plus parler uniquement franco-français et uniquement territoire. On a un besoin donc d'envisager la protection des données sur un plan mondial. Autre enjeu, c'est le développement des usages et des comportements. Alors, nous, on a coutume de dire que les réseaux sociaux, on ne les a pas vus arriver à la CNIL. Ça s'est répandu. Je veux dire, c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas la question là, de remettre en cause la légitimité du développement des réseaux sociaux. Mais on voit bien qu'il y a eu... Je veux dire, ce développement des réseaux sociaux, c'est accompagné d'un dévoilement de soi sur Internet. Alors, ce que Dominique Cardon pourrait appeler les zones clair-obscur. Et je veux dire, il faut aussi pas se leurrer sur le fait que c'est pas non plus un dévoilement complet de soi, parce que de plus en plus, les jeunes apprennent aussi à maîtriser leurs données personnelles. Mais c'est ce qu'on peut appeler privacy paradox ou le mythe du privacy paradoxe, parce qu'il y a une réelle inquiétude sur le dévoilement de ces données. Mais il y a aussi un manque d'outils actuellement de maîtrise de ces données, notamment sur Internet. Et puis, il y a le défi de la sécurité. Je dirais aujourd'hui, le défi sécuritaire, si je puis dire. On est aujourd'hui en plein dedans, avec notamment les discussions autour du projet de loi renseignement, où on est face, là aussi, à un paradoxe. C'est-à-dire que quand on a regardé, enfin, quand on voit les réactions après l'affaire Snowden, il y a eu un grand mouvement de privacy, de réaction, oui, on ne peut pas s'introduire comme ça sur Internet et récupérer nos données personnelles. Et puis, les attentats de janvier ont fait basculer un petit peu l'opinion publique. Mais ça, c'est un mouvement, là aussi, qu'on voit de façon récurrente, où là, on est sur un contexte sécuritaire. Et quand on interroge les gens aujourd'hui par rapport au projet de loi renseignement, ils sont majoritairement en faveur des dispositions qui sont susceptibles d'être votées prochainement. Donc voilà, il suffit. Ça, je trouve que ce serait intéressant aussi d'en discuter, cet équilibre entre sécurité et liberté qui évolue au fil du contexte d'actualité. Et la biométrie, bien évidemment, a un impact là-dessus. Alors, trois éléments que je voudrais évoquer rapidement. Donc, les notions clés, principes de protection des données, donc des éléments de doctrine sur la CNIL, et puis les évolutions possibles, enfin des réflexions qu'on peut se poser. Petit focus sur la notion de données à caractère personnel. Donc, aussi bien dans le texte de la directive que dans la loi, une donnée à caractère personnel, donc c'est une donnée qui concerne bien évidemment une personne physique. Et en fait, c'est toute information qui peut permettre d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Alors, que ce soit directement, c'est notamment par son état civil, ou indirectement par des éléments spécifiques qui lui sont propres. Alors, dans la directive, il y a des éléments sur les aspects biologiques et notamment physiologiques. La loi informatique et liberté ne fait pas cette référence précise, mais il n'en reste pas moins que les données biométriques sont à l'évidence considérées comme des données personnelles. Et puis également, s'il y a recoupement d'informations qui peuvent permettre, par rapprochement successif, donc d'identifier une personne. C'est-à-dire que même si dans une base de données, vous n'avez pas le nom d'une personne, mais vous avez ses dates et lieux de naissance corrélés avec sa commune de résidence, ce sont des données qui peuvent permettre de l'identifier, de la discriminer, et donc la base de données en question est soumise aux dispositions de protection des données. Alors, au-delà de ça, on parle beaucoup aujourd'hui des métadonnées, adresses IP, données de connexion, données de géolocalisation. Ce sont aussi des données à caractère personnel et qui, par bien des aspects, doivent être considérées avec une vigilance extrême, parce que c'est par l'exploitation de ces métadonnées qu'on peut aussi, arriver à détecter des profils de consommation, donc à constituer des bases de données comportementales. Donc aujourd'hui, la question est de savoir si ces métadonnées ne sont pas tout aussi et même plus sensibles que d'autres données. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a eu tout un débat au Parlement européen dans le cadre de discussion sur le projet de règlement européen, parce que certains acteurs de l'Internet, et pas des moindres, donc voulaient faire une distinction entre données personnelles et données, je dirais, pseudonymisées, en considérant que les données pseudonymisées devaient être hors champ de la loi. Données pseudonymisées, c'était pour eux les métadonnées. Donc on voit bien là qu'il y a, je dirais, de réels enjeux qui se jouent par rapport au cadre juridique européen qui se dessine. Alors les données sensibles au terme de la loi et de la CNIL, là je vous cite l'article de la loi, ce sont toutes les données qui peuvent permettre de révéler directement ou indirectement, donc comme vous le voyez, les origines raciales ou ethniques des personnes, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. Et curieusement, les données biométriques sont mises à part, alors que les données biométriques, comme on va le voir, peuvent à bien des égards être considérées comme des données de santé. Et de la même façon, les données génétiques qui font aussi l'objet d'un statut à part ne sont pas considérées comme des données stricto sensu, comme des données de santé. Alors là, je dirais, le règlement gomme cette distinction, mais je dirais, la rédaction est quand même un petit peu curieuse. Dans la loi informatique et liberté, les données biométriques font l'objet d'un régime particulier d'autorisation de la CNIL ou d'avis préalable, mais il n'y a pas ce principe d'interdiction. On peut, sans débattre du pourquoi véritablement, je pense qu'il n'est pas anodin le fait que, initialement, les données biométriques ont d'abord été utilisées à des fins d'identification judiciaire. Donc introduire, je dirais, un principe d'interdiction, je pense aller à l'encontre, je dirais, de certains intérêts de l'État qui, semble-t-il, devaient considérer qu'il fallait pouvoir autoriser et non pas prévoir un principe d'interdiction du traitement de ces données. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles donc il n'y a pas un principe d'interdiction qui a été introduit pour les données biométriques. Alors, si... on essaie de considérer les données biométriques. Nous, on a toujours estimé que c'était des données effectivement très, très particulières. Alors, pourquoi particulières ? Parce que, comme il a été indiqué, ce sont des données qui se rapportent aux caractéristiques biologiques, morphologiques des personnes et également à leur comportement. Données biométriques, c'est ça également. Ce qui fait que c'est quelque part, ce sont des données donc, qui sont produites ou issues du corps humain, ce qui fait qu'on est sur une notion d'identification de la personne qui n'est plus basée, si je puis dire, sur un système déclaratif par la personne ou par un tiers, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais qui est produite par le corps. Donc pour nous, c'est une nouvelle notion d'identité, l'identité corps, si je puis dire, qui assurément soulève des enjeux particuliers, qui comporte des risques d'atteinte, je dirais, à la dignité humaine et également des risques d'utilisation détournée des informations, qui fait qu'on a toujours à la CNIL porté une attention particulière donc à ces données, même avant ce régime d'autorisation qui a été introduit par la loi de 2004. Donc, le fait qu'il y ait une croyance, si je puis dire, en fait que le corps, a priori, ne ment pas, c'est vraiment cette notion-là, est quelque chose qui fait que, par rapport à la confiance entre l'homme et entre la personne et l'État, qui fondait jusqu'à présent l'identité, la carte nationale d'identité, elle était fondée sur le fait que la personne déclarait des éléments d'état civil donc à la mairie. Après, c'est rajouté le fait qu'il y ait des empreintes digitales, mais les empreintes digitales n'ont jamais été jusqu'à présent enregistrées dans une base centralisée. Ça, c'est un élément qui, de plus en plus, est remis en question. Donc, c'est le fait qu'il y a une certaine défiance qui s'instaure vis-à-vis de l'humain. À considérer que le fait que ce soit produit par le corps humain, donc potentiellement à l'insu de la personne, est un élément qui est considéré comme plus fiable que si l'individu déclare lui-même son état civil. Donc ça, c'est pour nous, potentiellement un risque d'atteinte à la dignité humaine, voire même à l'identité humaine, qui fait que on considère que ces données biométriques doivent avoir un statut particulier. Deuxième élément, donc, c'est le fait que donc il y a des enjeux spécifiques qui sont liés à ces données biométriques. Donc, comme je l'indiquais, donc risque d'utilisation détournée de ces informations, de communication donc à des personnes, je dirais non autorisées. Et puis il y a un aspect, je dirais banalisation, qui est aujourd'hui de plus en plus, je dirais inquiétant. Comme je vous l'ai indiqué, on est parti de l'identification judiciaire. Aujourd'hui, on assiste à une banalisation de la biométrie, puisqu'elle est non seulement utilisée donc, dans le contrôle d'accès aux locaux, contrôle d'accès à des centres de loisirs, comme élément de paiement aussi. Donc, on a eu des expérimentations de cartes de paiement sans contact qui étaient fondées aussi sur l'identification biométrique, et notamment digitale. On est aussi sur des utilisations dans le domaine aussi de la santé pour sécuriser l'accès, par exemple, à des services de soins, des centres de radiothérapie, par exemple, comme dispositif de clé d'accès à des chambres d'hôtel, par exemple. Et puis, bien évidemment, dans les smartphones aujourd'hui, notamment les iPhones, mais pas seulement, donc ce sont des données qui sont aujourd'hui couramment utilisées. Alors, je ne vous ai pas donné, mais je pense que vous l'avez tous en tête, donc le champ qui est couvert par la biométrie, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça. La biométrie, pour nous, c'est bien évidemment les empreintes digitales, c'est également donc la reconnaissance du contour de la main, c'est reconnaissance du réseau veineux, reconnaissance de l'iris, c'est également par exemple la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, la reconnaissance gestuelle. Donc ça, on est plus sur l'analyse comportementale. La reconnaissance dynamique des signatures également, la reconnaissance faciale des émotions, je crois que vous l'évoquerez tout à l'heure. Donc le champ est absolument, je dirais, très large. On verra à la fin, bon, les données du Quantify Self potentiellement aussi peuvent relever du domaine de la biométrie. Donc le champ est extrêmement large. J'oubliais également le domaine de la génétique aussi, qu'on peut considérer comme faisant partie de la biométrie. Alors, il y a plusieurs types de classifications qui peuvent être choisies, donc à la fois en fonction des caractéristiques physiques, c'est-à-dire l'analyse morphologique, l'analyse comportementale. Il y a aussi ce qu'on pourrait considérer comme étant une classification, mais à mon sens, la distinction n'est peut-être pas valable dans le temps. Les biométriques qui peuvent être qualifiées de biométrie immuable, telles que le réseau veineux, les empreintes digitales, l'ADN, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une biométrie qui est immuable? Je ne pense pas, compte tenu des évolutions en cours. Et puis, il y a les biométriques qui évoluent, en fonction notamment de l'âge, du poids. C'est par exemple donc le visage, le contour de la main, par exemple. Alors, il y a une autre une étude de la Commission européenne de 2005 qui évoque aussi d'autres critères d'universalité. Par exemple, le visage, le critère de distinctivité, collectabilité, si les données sont plus ou moins facilement collectables, critère aussi de performance des dispositifs biométriques. Pour ce qui concerne la CNIL, comme on va le voir, nous, on a retenu une distinction qui est notamment fondamentalement une distinction biométrie à trace, biométrie sans trace. Je vais y revenir. Alors, je parle là d'une perception sociale ambiguë. Pourquoi ? Parce que on a fait réaliser en 2013 une enquête par le CREDOC, dans le cadre d'une enquête générale, l'enquête qu'ils font deux fois par an sur les conditions de vie et aspirations des Français, où on a souhaité poser un certain nombre de questions sur le ressenti des Français face au dispositif biométrique. Donc ça a donné lieu d'ailleurs à un numéro de la collection des rapports du CREDOC sur le sujet. Et donc sans entrer dans le détail, donc cette étude donc, qui était menée en face à face, hein, c'est une étude menée en face à face, donc qui ont plus de valeur que les sondages faits par Internet, et il y a moins de biais. montrent que donc une grande majorité, donc les Français se déclaraient favorables à un usage régalien de la biométrie, donc dans deux cas de figure, donc les fichiers de police à des fins de recherche d'infraction, dans une proportion de 76%, et puis pour la carte d'identité, ils y étaient favorables, donc à 65%. En revanche, quand on leur demandait s'ils étaient favorables à l'usage de la biométrie dans certains actes de la vie quotidienne, là, ils étaient beaucoup plus, mesurés. Par exemple, seuls 27% des personnes interrogées se déclaraient favorables à l'utilisation de la biométrie comme moyen de paiement. Et de la même façon, 32% étaient favorables à ce que leurs données biométriques soient utilisées pour les identifier dans les équipements de voisins. Donc on sentait une certaine réserve à cette utilisation. Ils considéraient également que le recours à des logiciels de reconnaissance faciale permettant de retrouver sur Internet les photos d'une personne était préoccupant, donc et ça à plus de 90%. Et puis quand on compare par rapport à un autre sondage qu'on a fait sur l'utilisation des photos sur Internet, ben on voit là qu'une majorité de personnes interrogées eh bien, mettent leurs photos sur Internet, les tags, les identifient, etc. Donc sans... Et pourtant, ils se déclarent aussi à plus d'un tiers préoccupés par les questions de vie privée. Donc on voit en fait un peu une distorsion entre en fait la perception sociale de la biométrie, qui paraît toujours, inquiétant, préoccupant, et puis l'utilisation en réel de la biométrie. Je pense que, et c'est d'ailleurs ce qu'on va très probablement faire dans les prochaines semaines, c'est faire un sondage auprès d'utilisateurs d'Internet réguliers pour voir, et d'utilisateurs de smartphones, pour voir dans quelle mesure aujourd'hui ils utilisent quotidiennement Siri ou etc., donc des systèmes de reconnaissance vocale, et dans quelle mesure ça leur paraît poser problème ou non. Et je pense qu'on verra, je suppose qu'on verra une distorsion entre l'aspect ressenti et puis l'aspect utilisation au quotidien. Et c'est une des difficultés de la biométrie aujourd'hui dans la vie quotidienne, c'est le fait que, encore une fois, elle se banalise. Elle est aujourd'hui de plus en plus diffusée comme un moyen soit d'identification, soit d'authentification banale. Et je pense que, il y a sans doute un manque de sensibilisation, un manque d'éducation de la part du public, ou peut-être que les comportements sont en train de basculer en considérant que finalement, on est dans une société où finalement il n'y a pas de risque à être tracé, etc. Ça, il faudrait en discuter. Alors le cadre de régulation actuel, comme je l'indiquais, donc s'agissant de l'utilisation des dispositifs biométriques, on est sur un principe d'un contrôle préalable de la CNIL, avec une distinction entre le secteur privé et public non régalien et le reste, puisque pour ce qui concerne l'utilisation, par les entreprises, etc., de la biométrie, c'est un régime d'autorisation par la CNIL qui prévaut. Et pour ce qui concerne, les fichiers de police, donc tout ce qui concerne le secteur régalien, donc c'est un régime d'avis préalable de la CNIL sur un projet de décret. Donc, procédure qui est aussi très lourde, mais où la CNIL n'a pas de droit de veto. Donc, distinction dans les types de traitement. Donc, je ne vais pas là m'appesantir sur la notion de traitement telle qu'elle est dans la loi, mais c'est une notion qui est extrêmement large et qui couvre bien évidemment donc non seulement les bases de données classiques, mais également réseaux sociaux, applis mobiles, etc., et bien évidemment les dispositifs biométriques. Donc, cette notion de traitement couvre vraiment toutes les phases de traitement, depuis les opérations de collecte jusqu'à au stockage final. Alors, la grille d'analyse de la protection des données, je vous en dis quelques mots, puisque c'est cette grille d'analyse que nous utilisons lorsque nous avons examiné des dispositifs biométriques. Et ça, ces cinq principes, ce sont vraiment les cinq règles d'or de la protection des données en Europe. Le premier de ces principes, c'est le principe de finalité, qui veut que lorsque des données sont collectées, elles doivent être collectées pour une finalité déterminée, légitime, qui a été préalablement définie. Donc il faut préalablement penser pour quel usage les données vont être recueillies. Donc ça veut dire très concrètement que, par exemple, pour aller vite, les fichiers administratifs, donc mis en œuvre par les administrations, que ce soit par exemple l'inscription scolaire, les fichiers fiscaux, etc., fichiers de sécurité sociale, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de propagande politique ou à des fins d'utilisation commerciale. Voilà, ça, c'est, ça vous donne le schéma. Sachant qu'il y a deux problématiques actuellement, c'est notamment la problématique du big data, parce que, encore une fois, le principe du big data, c'est a priori de collecter le plus de données possible, donc de stocker, etc., pour détecter les utilisations potentielles. Alors, il est évident qu'avec le principe de finalité, je dirais, il y a un problème d'application et d'adaptation de ce principe à ces potentialités du big data. Donc, on est en train actuellement d'y réfléchir, sachant que on a pu, dans le passé, trouver des solutions adaptées. Deuxième aspect, c'est les finalités de recherche, puisque la loi reconnaît, il est vrai de façon pas tout à fait explicite, mais la possibilité de réutiliser les données à des fins de recherche. Donc, une finalité de recherche scientifique, statistique, etc., est considérée intrinsèquement comme une finalité, je dirais, compatible avec l'utilisation initiale des données. Mais on va y revenir. Deuxième principe, c'est le principe de proportionnalité et de pertinence qui veut qu'il y ait une adéquation, si je puis dire, entre les informations qui sont recueillies et puis les objectifs qui sont poursuivis. Et on verra dans un certain nombre de cas de dispositifs biométriques qui nous ont été soumis qu'à plusieurs reprises, on a fait application de ce principe de proportionnalité pardon, pour refuser la mise en place de dispositifs biométriques. Au-delà de ça, comme je l'indiquais, donc, il y a une protection particulière qui est accordée à certaines catégories de données, comme je l'évoquais tout à l'heure. Troisième élément, c'est durée de conservation des informations, donc qui doit être définie en fonction de la finalité. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a effacement des données, mais le principe, c'est que s'il y a préservation d'un droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir conserver indéfiniment les données, donc on doit soit les anonymiser lorsque les données ont été utilisées, soit les archiver ou les effacer. Quatrième élément, sont les mesures de sécurité donc qui doivent être prises, qui peuvent aller jusqu'à un chiffrement des données, par exemple des bases de données biométriques, qui peuvent aller sur des mesures pour préserver l'intégrité des informations. Donc là, on diffuse notamment des guides pratiques de sécurité. Et enfin, dernier principe clé, c'est le respect des droits des personnes. Donc pour assurer de façon effective la maîtrise des informations, donc les personnes doivent être informées dans un souci de transparence des raisons pour lesquelles, donc, enfin, des finalités pour lesquelles on va collecter des données, des destinataires des informations, donc des droits qui leur sont ouverts, d'avoir accès, faire rectifier, faire supprimer, comme je l'indiquais. Et puis, dans un certain nombre de cas, notamment pour des raisons, pour des finalités commerciales, droit de s'opposer à l'utilisation de ces données. Et également, donc, par exemple, en matière de recherche médicale, le droit aussi de s'opposer à l'utilisation de ces données à des fins de recherche médicale. Et puis, dans un certain nombre de cas, donc, la personne peut être invitée à donner son consentement. C'est d'ailleurs une condition de licéité des traitements, c'est-à-dire que la loi énumère parmi le fait que la collecte est licite, le fait que la personne consente à l'utilisation de ces données. Alors c'est une des conditions, ce n'est pas une condition qui est absolue, c'est-à-dire que si le responsable du fichier, d'une base de données, d'un dispositif biométrique peut montrer qu'il y a un intérêt légitime à mettre en œuvre son traitement, la CNIL le prendra en compte. Et à ce moment-là, il n'y aura pas potentiellement d'exigence du consentement. Donc on va voir des cas concrets tout à l'heure. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête cette grille d'analyse parce que jusqu'à présent, c'est toujours cette grille qui nous a conduit dans l'élaboration des éléments de doctrine de la CNIL. Alors venons-en maintenant à ces éléments de doctrine. Alors la doctrine de la CNIL, elle s'est un peu construite au fil de l'eau, au travers des dispositifs qui nous ont été soumis. Elle a pu évoluer, elle est potentiellement encore en cours d'évolution. sous l'effet de différents facteurs, et je pense que, je dirais, il n'est pas... Il est intelligible que la doctrine de la CNIL évolue à la fois en fonction du contexte, je dirais, politique, économique, éthique, etc., des évolutions, des progrès technologiques. Donc, il est normal qu'elle ne soit pas figée. En tout état de cause, ce que je vous décris là, c'est quand même grosso modo ce qui reste quand même pour le moment dans les principes clés de cette doctrine. Premier distinguo, c'est donc le distinguo biométrie à trace et biométrie sans trace, c'est-à-dire qu'en fonction des caractéristiques des biométries, on considère qu'il y a des biométries qui sont plus dangereuses que d'autres. Biométrie à trace, c'est typiquement les empreintes digitales, par exemple. C'est aussi l'ADN, enfin les données génétiques, qui peuvent laisser des traces à l'insu des personnes et qui peuvent être utilisées donc à l'insu des personnes, donc, et qui peuvent être détournées de leur finalité. À distinguer des biométries sans traces, telles que par exemple la reconnaissance du contour de la main, on ne peut pas laisser des traces du contour de sa main à son insu. De la même façon, la reconnaissance du réseau veineux, on ne peut pas non plus, laisser des traces inconsciemment. Donc ce qui fait qu'on a fait cette distinction-là, donc en considérant qu'il fallait entourer de garanties particulières donc les biométries dites à traces. S'agissant de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance vocale, aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à les considérer comme des biométries à traces. Pourquoi ? Parce que ce sont à l'évidence avec les moyens de stockage actuels dont disposent les acteurs clés de l'Internet que j'évoquais tout à l'heure, Google, Facebook notamment, ils disposent aujourd'hui de bases de photos et également des échantillons de voix de plus en plus énormes. Donc avec des possibilités de reconnaissance qui sont de plus en plus faramineuses. Et donc là, avec également le développement des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoprotection, on est de plus en plus amené à laisser des traces de ce type à notre insu. Deuxième critère également utilisé, c'est la notion, c'est le stockage en fait, pour savoir où sont stockées les données biométriques. Selon que les données vont être stockées en base centrale, vraiment une base centrale, un fichier central, ou qui peut être simplement un lecteur biométrique qui va enregistrer donc quelques dizaines de gabarits ou d'empreintes digitales, ou selon que l'empreinte digitale, par exemple, est enregistrée sur un support individuel, ou de façon générale, la donnée biométrique est enregistrée sur un support individuel, les risques ne sont pas les mêmes, là aussi. Et on a toujours exprimé une préférence certaine pour le stockage de la donnée biométrique sur un support individuel type carte à puce dont l'individu est possesseur et dont l'individu a la maîtrise. Et donc on est là plus sur un système donc de confrontation de ce qu'on appelle le système de match on card, c'est-à-dire qu'on va confronter, donc on va authentifier donc la personne par le fait qu'elle va apposer son empreinte digitale sur le lecteur qui va être comparé à l'intérieur du lecteur ou de la carte avec donc l'enregistrement de l'empreinte digitale dans la carte. Donc ce système donc de conservation sur support individuel, donc encore une fois notre préférence, base centrale, on a pu l'admettre que pour des impératifs forts de sécurité, donc qu'il s'agisse de protection de l'intégrité physique de personnes, d'intégrité, de protection de biens aussi ou d'installations protégées, type accès à des centrales nucléaires, accès à des centres de production de vaccins par exemple. Donc on l'a admis ponctuellement pour ce type d'accès. En revanche, on a refusé, par exemple, la mise en place de dispositifs, et on cite toujours cet exemple, de dispositifs donc d'empreintes digitales avec base centrale pour l'accès à une cantine scolaire. Donc on a considéré là, en faisant application du principe de proportionnalité, que la mise en place d'un tel dispositif biométrique donc pour contrôler l'accès à une cantine scolaire et pour très concrètement vérifier que la personne en forme ne mangeait pas deux fois à la cantine, nous paraissait totalement disproportionné au regard à la fois des risques, d'atteinte à à la dignité des enfants, et compte tenu aussi du fait qu'il s'agissait d'une population de mineurs. Il y a aussi le fait, alors c'est pas écrit tant que tel dans la vie qu'on a rendue, mais c'est le fait que finalement c'était aussi habitué très jeune des enfants à ce type de technique biométrique. À la réflexion, on s'est dit après qu'on aurait peut-être dû être encore plus strict par rapport à ces utilisations axées sur les enfants, parce que à contrario, on a pu accepter d'autres dispositifs biométriques moins intrusifs, et fondamentalement, on aurait peut-être dû avoir une position beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis de ce type de population. Donc impératif fort de sécurité. Quatrième élément aussi qu'on tente de prendre en compte, c'est l'aspect garantie technique et fiabilité. Et on a également pu considérer, même si malheureusement il n'existe pas de process d'évaluation indépendant des dispositifs de biométrie pour évaluer leur fiabilité, notamment, dans la mesure où on s'est assez fortement renforcé sur le plan de l'expertise, on a également des relations avec certains organismes techniques. On a pu, dans un certain nombre de cas, considérer que l'utilisation de telle ou telle technique biométrique n'était pas suffisamment fiable, et ça a pu motiver des refus d'autorisation. Quatrième élément, c'est l'aspect consentement, c'est-à-dire que de façon générale, à l'exception bien évidemment des fichiers régaliens, mais on a toujours considéré qu'on devait se baser sur un mode volontariat, qu'il devait toujours y avoir un mode alternatif, par exemple pour le contrôle d'accès aux locaux, si les salariés ne voulaient pas être doté de dispositifs biométriques, il devait avoir la possibilité d'opter donc pour d'autres dispositifs alternatifs, badges, etc. Donc ce principe du volontariat et du consentement a toujours été mis en lumière. Et typiquement, donc, on a pu refuser, donc, par exemple, un dispositif de contrôle d'accès à un foyer de jeunes travailleurs au motif qu'il n'avait pas prévu donc de recueil du consentement et de mode alternatif. Voilà pour ce qui concerne moi. Je vais aller un peu plus vite. On a aussi refusé, toujours sur la motivation base centrale et pas impératif fort de sécurité, la mise en place d'un système donc de contrôle d'accès donc à des chambres d'hôtel, donc où là la biométrie, les empreintes digitales devaient être utilisées pour accéder aux chambres d'hôtel, en considérant qu'il n'y avait pas d'impératif fort de sécurité. Donc ça, à chaque fois, c'est une approche au cas par cas qui a été développée, sachant qu'on a aussi développer des mesures de simplification pour les biométries qui ne nous paraissaient pas poser de problème. Alors deux points sur lesquels je voudrais insister, c'est la problématique donc de la recherche en biométrie, si j'ai un petit peu de temps, puisque on commence à être saisi là depuis quelques années donc d'applications R&D qui visent à tester donc des algorithmes de reconnaissance, notamment de reconnaissance faciale, mais pas seulement, pour tester donc la fiabilité de ces données. Donc ça fait appel potentiellement donc à des populations certes volontaires, mais qui soulèvent derrière, comme on a pu l'évoquer avec Nicolas, la problématique des finalités ultérieures et opérationnelles donc de ces applications de R&D. Donc on a été saisi à la fois par une société qui s'appelle Vesalis, qui était en connexion avec le ministère de l'Intérieur pour développer un algorithme de reconnaissance faciale dans les stades, et puis Morpho, qui est un des leaders français, plus que français, européens et même mondiaux, des dispositifs biométriques, notamment dispositifs donc nous a déclaré donc un certain nombre de bases de données donc utilisées dans le cadre de leur recherche sur également de détection de dispositifs de reconnaissance faciale et autres. Et donc dans les deux cas, on a autorisé ces dispositifs. Alors avec des précautions d'usage, je vais vous lire un des considérants de la délibération que nous avons rendue, notamment sur Vesalis, qui montre, un peu la problématique auquel on est confronté, puisque là, c'est donc un système biométrique de reconnaissance faciale en temps réel sur environnement non contraint, c'est-à-dire environnement de volontaire, bien sûr. Et à terme, l'idée, ce serait que ça fonctionne sur la base d'analyse d'images provenant de systèmes de vidéosurveillance préexistants. Donc là, on a relevé que ces dispositifs étaient destinés à terme à être mis en œuvre à grande échelle à des fins d'identification de personnes, à des fins de sécurité publique. Donc clairement, la finalité secondaire derrière, c'est une finalité de sécurité publique. Donc nous, ce que nous avons dit notamment, nous avons dit que ce type d'application comporte des risques importants d'atteinte à la vie privée, à la liberté d'aller et venir des personnes qu'il convient d'évaluer précisément. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle, à chaque fois, quand il y a des expérimentations, des recherches, à ce qu'il y ait un bilan, une évaluation, une étude d'impact qui soit faite. Et on a également indiqué l'autorisation donnée pour la mise en œuvre de ce type de traitement dans un contexte expérimental, au vu des garanties juridiques et des mesures de sécurité technique, ne préjuge en aucune façon de son appréciation ultérieure, de la CNIL, de son appréciation ultérieure de la légitimité et de la proportionnalité de la mise en œuvre en situation réelle et opérationnelle de tels dispositifs. Donc là, on a quand même admis donc, cette utilisation, mais pour autant, on était aussi conscient des utilisations potentielles derrière. Donc toute la question après, ce sera de savoir, au vu des résultats de l'expérimentation, de quelle façon va-t-on considérer donc, cette utilisation opérationnelle. Et c'est un peu toute la difficulté, c'est-à-dire si on admet... D'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut admettre ce type de recherche, sachant pertinemment que ça sera utilisé pour une finalité d'identification, de sécurité publique, etc., et donc de surveillance potentielle des personnes. Et ça, c'est une problématique de recherche. Je trouve que la biométrie soulève véritablement, de façon assez cruciale, ce dilemme où on a quand même à favoriser le développement de la recherche, mais pour autant, on doit peut-être aussi, je sais pas si on peut dire faire application d'un principe de précaution, etc., quel garde-fou on peut fixer, quelles limites on peut fixer quand on est, soumis, quand on nous soumet ce type de dispositif à titre expérimental. Et là, je dois dire qu'on n'a pas véritablement de réponse aujourd'hui sur ce point. Et en tout état de cause, alors c'est peut-être aussi une solution de facilité, mais c'est là où je dis que la CNIL, elle a aussi une fonction éthique à avoir par certains côtés. Mais c'est là où, on aurait besoin sans doute d'avoir, une plus grande... une réflexion plus globale à avoir, mais j'avoue que je pose des questions. Pour le moment, j'ai pas véritablement de réponse sur ce point, comme j'ai pas non plus de réponse sur quand j'évoquais cet exemple de l'implant de partie. Je trouve que ça pose véritablement un dilemme de fond pour la CNIL. Est-ce qu'on doit aujourd'hui, avoir une position claire et indiquer que non, ça ne peut pas se faire aujourd'hui dans les conditions actuelles. Est-ce qu'on doit mettre un coup d'arrêt ou est-ce qu'on doit accompagner ce genre de dispositif, ce qui n'est pas non plus anodin. Je vous soumets la question. Et dernier élément, donc les fichiers régaliens, mais je les évoquerai rapidement puisque ce sont les finalités premières des dispositifs biométriques donc, qui ont été utilisés dans le cas de la police judiciaire. Donc, c'est à la fois le FAED, le fichier des empreintes digitales, le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, et également, aujourd'hui, dans certains fichiers de police judiciaire, et également, fichiers de police judiciaire, là, les dispositifs de reconnaissance faciale commencent à être utilisés aussi assez massivement. Et puis, dans le cadre du contrôle aux frontières, donc dans le cadre de délivrance des visas, où la biométrie est massivement aussi utilisée, et également donc dans le cadre du passeport biométrique, où la Commission a eu l'occasion de se prononcer, a mis à l'époque un avis très réservé, donc fondé sur sa doctrine, estimant qu'il n'était pas légitime de mettre en place une base centrale pour la gestion de ces passeports, une base centrale biométrique pour la gestion de ces passeports. Elle n'a pas été suivie. En revanche, elle a été suivie par le Conseil d'État, puisque le décret a été partiellement annulé sur l'aspect enregistrement des empreintes digitales d'intégralité des doigts de la main, où là, nous, on avait considéré que c'était tout à fait disproportionné par rapport à la finalité poursuivie. Donc là, on est revenu à deux empreintes digitales enregistrées. Et puis, il y a eu la question de la carte nationale d'identité, où on avait été saisi du projet de loi instaurant la carte nationale d'identité électronique avec biométrie et base centrale biométrique. La loi est passée, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel qui a annulé cette disposition, estimant qu'il y avait un risque d'atteinte à la vie privée, résultant notamment de la constitution donc de cette base centrale biométrique. Voilà, alors juste rapidement, les questions qui se posent, je les ai évoquées au fil de l'eau, la banalisation des usages biométriques, l'ADN modifiable, le Quantify Self, donc, qui a fait l'objet deuxième numéro de nos cahiers IP, qui pose aussi la question de l'exploitation des données qui sont à mi-chemin, données de bien-être, données de santé ou données du corps humain. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas considérer que il faudra aller au-delà des distinctions actuelles que je vous ai évoquées, données sensibles, données relatives à la santé, etc., bisexuelles ou données génétiques, et considérer que, par nature, toutes les données issues du corps humain sont des données qui doivent faire l'objet d'une protection particulière, et voir dans quelle mesure il n'y a pas lieu de rapprocher les différentes régulations existantes en matière bioéthique, de protection des données personnelles, pour envisager un corpus de règles qui soit cohérent et qui soit commun. Il y a de plus en plus un rapprochement entre, je dirais, le numérique et le corps humain, et donc d'où l'opportunité, à mon sens, d'avoir un cadre global à cet égard. Donc c'est la raison pour laquelle j'évoque à la fin cette question d'une régulation bioéthique globale qui est également évoquée à la fin de ce cahier IP. Voilà, excuse-moi d'avoir été si longue.